Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
NoWatch.fm.
Incredible web shows.
Cette émission vous est présentée avec la participation de la boutique NoWatch. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en mars 2012 et c'est l'épisode numéro 83. Bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on vous parle technologie, internet et gadgets avec une sorte de vulgarisation merveilleuse qui vous permet de tout comprendre à l'actu tech, même si vous n'êtes pas un expert dans le domaine, c'est la magie du Rendez-vous Tech. Voilà, je pense que là, c'était tellement beau comme introduction, je vais m'arrêter. Ouais, c'est clair. Vous entendez la voix d'un compère de Upload. Corben est là pour le Rendez-vous Tech aujourd'hui. Donc, ne changez pas de chaîne, vous êtes bien sur le Rendez-vous Tech. Corben nous a fait l'amitié, au sortir de son avion plein de kangourous, de nous rejoindre dans le Rendez-vous Tech. Tu vas bien?
Ouais, ça va un peu claqué, je t'avoue, ouais. Là, le bébé est malade, alors j'ai une journée de fou, il se met à hurler toutes les 5 minutes, donc si vous entendez crier, vous inquiétez pas.
Écoute, on est très compréhensifs et il y en a quelques-uns dans l'équipe NoWatch qui ont des bébés qui crient dans le fond, donc on a l'habitude.
D'accord.
Et on a aussi avec nous un autre camarade dornien, si je puis dire, puisque le frère de Corben est là. Le frère de Corben, c'est Geoffrey ouais. Dorn.
Bonsoir.
Et tu vas bien?
Bah écoute, ça va, pareil, un peu claqué, j'ai pas de bébé, mais bon, presque.
Attends, ça veut dire quoi, t'as pas de...
C'est l'écureuil.
Presque. C'est l'écureuil, exactement, il fait du bruit.
D'accord, ok. Bon, Corben, je pense que tout le monde connaît un petit peu, blogueur tech et geek invétéré. Geoffrey, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Parce que bon, c'est pas juste parce que t'es le frère de Corben que je t'ai invité à venir dans l'émission. T'as aussi une vraie légitimité tech.
Non, bah en gros, je suis designer indépendant et j'anime un blog qui s'appelle graphisme.fr. Et puis j'anime un autre blog qui s'appelle j'affiche.fr et voilà, je fais des images et on rigole.
D'accord. Donc tu es plutôt le côté artistique de la famille.
Exactement. Il en faut un.
D'accord.
Je me suis dévoué.
Ok, bah très bien. Écoute, je te remercie en tout cas d'être dans l'émission et j'espère qu'on va vous faire passer un bon moment. En tout cas, nous, je pense qu'on va bien s'amuser. Il y a plusieurs sujets dont on voudrait traiter. Rien de vraiment énorme, mais quelques sujets intéressants tout de même. À commencer par l'affaire du procès de Yahoo à Facebook. C'est un truc qui a un petit peu fait vibrer la sphère technophile la semaine dernière, je dirais pas tellement, enfin il y a une dizaine de jours, pas tellement la semaine dernière, parce que Yahoo a attendu, a attendu que Facebook se mette à parler d'entrer en bourse pour leur coller un procès aux fesses. Bon, ça... Pourquoi pas, on se dit, ils attendent, et ils leur font le procès, et donc ils espèrent que Facebook soit trop occupé avec son entrée en bourse pour vraiment se défendre comme ils peuvent, et qu'ils payent beaucoup. Ok, c'est une stratégie un petit peu abjecte, mais pourquoi pas. Mais le vrai truc qui a fait hurler tous les analystes tech de la Terre, c'est que, en fait, les brevets qu'ils utilisent vont encore plus loin que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que ce sont des brevets qui sont sur des trucs tellement évidents que ça devrait pas pouvoir être brevetable. Et il y a même une un jeune homme qui travaillait à Yahoo à l'époque où ces brevets ont été envoyés à l'office des brevets, qui disait: on m'a trompé, on m'a dit que on faisait les brevets parce qu'il fallait avoir des brevets pour se défendre, mais qu'on ne les utiliserait jamais en mode offensif. Et là, ils les utilisent en mode offensif, c'est dégueulasse. Il y a plusieurs personnes, des VC, des venture capitalistes, qui ont dit là, Yahoo va trop loin, c'est trop évident, c'est des trucs. Il y avait une sorte de loi non dite dans la Silicon Valley qui disait: on n'a pas le droit d'utiliser ce type de brevet. Et là, ils y sont allés. Pour vous donner un petit peu une idée du type de brevet qu'ils utilisent pour faire ce procès à Facebook, c'est des trucs du genre pouvoir voir notre flux comme le voient d'autres personnes. Il y a un brevet pour ça. Il y a un brevet pour la customisation, la personnalisation des flux de contenu. Donc des pages de génération, des pages générées dynamiquement, qui sont utilisées sur Twitter, Pinterest, Google+, enfin tous les flux de contenu sont comme ça. L'identité authentifiée, c'est un petit peu plus que juste ce qu'on pouvait, on pourrait en penser immédiatement, mais bon, il y a plein de sites qui utilisent aussi ce genre de choses. Enfin bref, je vais pas vous faire la liste de tous les brevets, mais c'est effectivement des trucs assez...
C'est un troll à brevet, là, Yahoo.
Patent troll, comme on dit.
Ouais. Ils deviennent vraiment le patent troll. Il y a des gens aussi, bon, ils sont pas nombreux, mais il y a des gens qui disent: bon, bah, c'est le business, c'est comme ça, ils ont un vrai portefeuille de brevets, c'est une vraie force pour eux, et c'est un petit peu normal qu'ils s'en servent pour se faire de l'argent. Et d'autres se disent: bah, ça y est, c'est la preuve que Yahoo n'est plus qu'une coquille vide. Et s'ils en arrivent là pour devoir faire de l'argent, ça veut dire que vraiment ils n'ont plus rien à vendre et plus rien à proposer aux utilisateurs, quoi. Vous êtes dans quel camp, vous?
Moi je suis plutôt dans le... Enfin, je suis partagé en fait entre les deux, mais je sais pas qui dirige Yahoo en ce moment, mais
bah, c'est plus Jerry Yang, il a disparu, ouais, voilà. Donc ouais, c'est un petit
ouais,
peu
donc,
le board.
Je pense que ça doit être des mecs qui pensent à leurs sous et voilà, et qui ouais, enfin pour moi c'est un peu mort, effectivement, ça part un
en
peu
général, en général, c'est des signes avant-coureurs en général,
ça sent mauvais, hein.
Ouais, c'est ça, c'est la fin.
Vraiment, vous pensez que Yahoo arrive au... Parce que ils ont quand même... C'est marrant parce que ça peut laisser penser justement que Yahoo n'a plus du tout de valeur. Et en fait, on se rend compte en étudiant un petit peu les propriétés de Yahoo, qui font un nombre de visites avec des sites dont personne dans la communauté geek n'a jamais entendu parler. Ils font un nombre de visites avec des trucs comme OMG et des
Flickr, des trucs comme ça.
Ouais. Flickr, bien sûr, ouais. Mais ils ont encore énormément de visites, quoi. C'est l'un des
sites. Ouais, non, mais moi, quand je dis c'est mort, c'est, enfin, il y a des gens très bien chez Yahoo qui bossent sur des trucs techniques, des sites, etc. C'est bien, mais après, c'est au niveau de la direction. Je veux dire, ça changera peut-être, ils vont peut-être recadrer le truc, mais, là, je te dis, à mon avis, ça, c'est un truc, c'est un boss qui a décidé, de se faire de l'argent, d'un seul coup, en attaquant comme ça avec les brevets. Mais, s'il a du jour au lendemain, il arrête, après, ça reviendra peut-être sur de bons rails, quoi. Je pense pas qu'Yahoo est fini en termes de site ou de... Enfin, comment dire, c'est pas fini en termes de techno, de propriété, etc. Mais c'est juste que là, à la tête de Yahoo, là, il y a des gens qui font n'importe quoi, mais ça peut changer, quoi. C'est pas mort définitivement.
Alors, je vais me faire l'avocat du diable. Je crois que je vais être souvent l'avocat du diable dans cette émission, mais s'ils peuvent vraiment se faire des des parties en matériaux dorés. Pourquoi pas? Enfin, je veux dire, c'est difficile de résister. Voilà, s'ils peuvent se faire les couilles en or, c'est difficile de résister.
Après, ouais, après il y a l'image.
Ouais, mais après, il y a l'image. Tu fais des couilles en or en attaquant d'autres boîtes sur des brevets complètement débiles. Tu vas passer pour un gros naze, quoi. Et puis, du coup, tu feras plus confiance. Enfin, voilà, ça salit l'image de la boîte, je trouve.
Ouais. Et puis même en termes d'innovation, je pense que Yahoo a su innover. Je sais pas s'ils savent encore innover aujourd'hui. Je pense qu'ils ont des compétences en interne pour faire encore des trucs à peu près innovants. Mais là, s'ils se basent que là-dessus, c'est pas très innovant. Et pour moi, une boîte tech qui avance, c'est une boîte qui innove, quoi. Et le patent troll, ça innove pas trop, quoi.
C'est vrai que c'est surtout à ce niveau qu'ils ont souffert après cette annonce de procès. C'est que c'était un petit peu le dernier clou dans le cercueil de l'estime de la communauté tech, quoi. Là, beaucoup de gens ont dit, bon, bah, ok, Yahoo, c'est fini. Maintenant, c'est une société qui essaye de faire de l'argent normal. Mais par contre, au niveau des choses intéressantes, des produits intéressants, bon, a priori, c'est plus leur objectif, quoi. Et d'ailleurs, il y a eu un truc intéressant au même moment, hasard du calendrier. Ils ont fermé un centre qui s'appelle Yahoo Research, où ils avaient énormément de gros talents qui faisaient de la recherche sur les technologies et les innovations du web. Et ils ont fermé ce centre, ils ont annoncé la fermeture du centre, et toutes les autres sociétés se sont jetées sur les gens qui travaillaient là-bas.
Comme quoi, mais il est où ce centre?
Je sais pas, j'imagine qu'il est à la Silicon Valley. Quand je dis un centre, c'est peut-être juste un département, hein, mais.
Ouais, il y en a pas qu'un, ils en ont d'autres. Moi, j'en avais visité un, quand j'étais parti en Israël, et les mecs, c'est des grosses têtes, hein, ils bossent sur les algorithmes de recherche, etc. Donc, ils en ont pas qu'un. Après, moi, Yahoo, j'en ai toujours une bonne image depuis longtemps. Ils font plein de trucs, ils font des super API. Enfin, pour les devs, c'est magique, quoi. Ils ont plein de trucs.
C'est vrai.
Plein de trucs de fou. Ouais, ils ont un truc qui s'appelle le YQL. C'est un genre de langage SQL, mais pour faire des requêtes sur de la donnée web. Par exemple, tu peux faire un select météo, enfin tu vois, genre select météo en partant sur après des points sur Yahoo Maps, ou alors en allant chercher des articles de journaux dans des flux RSS, etc. Ils ont plein de techno comme ça, plein de trucs comme ça, et pour
ils
moi c'est vraiment
Yahoo
une
Pipes
boîte
aussi qui
ouais Yahoo Pipes aussi. Il y en a plein, quoi, mais et c'était vraiment de la techno, de la vraie techno, quoi, des trucs pour des devs.
Et heureusement qu'ils avaient ça, parce que avec l'arrivée de Google, le moteur de recherche Yahoo servait plus à rien, donc heureusement qu'ils avaient toutes ces technos là et avoir développé ça, quoi. Il faudrait qu'ils continuent dans ce sens là hein.
Et toi, tu les considères toujours comme en tant que plutôt côté artistique dans la communauté des designers, Yahoo, ça garde une image correcte ou bon, c'est un petit peu.
Après Yahoo, en termes d'ergonomie, ils ont pas réussi.
Ils ont pas inventé l'eau chaude.
Non, c'est ça. Ils n'ont pas du tout évolué graphiquement, ou très très peu, depuis 10 ou 15 ans, j'en sais rien, mais il y a de la pub partout, il y a beaucoup de choses.
Non, mais Yahoo côté grand public, c'est mort, quoi. Enfin,
c'est ça, complètement. Ouais.
Moi, maintenant, ce qui est vivant chez Yahoo, c'est surtout la partie techno. Ils vendent des trucs aux boîtes. Ils vendent leur savoir-faire.
Tu dis ça côté grand public, c'est mort. Bon, nous, ça nous intéresse moins, mais justement, ils ont énormément de pages vues et ils font pas mal d'argent avec la pub. Donc,
mais ça existe depuis les tout débuts d'Internet. Donc,
non, c'est sûr, mais c'est ce qu'on pourrait. On pourrait penser justement que une société comme Yahoo, puisqu'on n'est plus trop, Yahoo, moi j'en ai pas parlé depuis des mois et des mois. On pourrait se dire Yahoo c'est plus trop une propriété intéressante au niveau financier. En fait, ils font de l'argent, ils ont de la part de marché. Mais bon.
Ils gagnent de l'argent juste avec la pub.
Oui, c'est la pub sur leur, parce qu'ils font de la page, quoi. Ils font de la page vue. Yahoo,
AOL,
c'est un gros
aussi,
truc, quoi.
AOL aussi hein, faisait de la page vue.
Oui, c'est vrai. Bon, passons à quelque chose qui intéressera plus nos camarades libristes, ou peut-être que ça les fera pleurer un petit peu. Certains d'entre vous ont très certainement entendu parler de cette histoire. Je vais faire un petit résumé. On va parler de la vidéo sur le web. Il y a quelques mois de ça, ou presque un an en fait, Google avait annoncé qu'ils allaient pousser un nouveau standard de compression vidéo qui s'appelait le WebM. Et c'était un standard entièrement ouvert, ou en tout cas que Google allait offrir à la communauté du web, et qu'ils allaient s'assurer qu'il n'y aurait pas de problème de brevet avec ce standard. Suite à ça, les gens qui utilisaient l'autre standard qui est en train de beaucoup gagner en popularité depuis quelques années, le H264. Donc certains se sont dit, bon, si on veut être ouvert et libre, on va se diriger plutôt vers ce standard, le standard WebM, et on va abandonner petit à petit le standard H264. Le problème, c'est que, comme toutes ces transitions, c'est un petit peu le problème de la poule et l'œuf, c'est-à-dire que tant que les appareils et les logiciels n'auront pas un support complet du WebM, le fait de produire ces vidéos et de les mettre sur le web en WebM, c'est un handicap parce que les appareils ne peuvent pas les lire. Et le H264 a énormément d'avance parce que tous les appareils Apple l'utilisent. Et en plus, c'est une technologie qui est assez présente dans tous les appareils en général, pas uniquement chez Apple. Le truc, c'est que le H264, c'est un petit peu, je schématise, hein, mais un petit peu comme du MP3. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais le MP3, c'est un format propriétaire. C'est-à-dire que pour l'utiliser, pour faire des appareils qui peuvent utiliser le MP3, il faut payer une licence. Bah, c'est la même chose pour le H264. Il y a des possibilités de ne pas payer pendant un certain temps. Le consortium a décidé qu'ils allaient laisser les licences très basses pendant un moment, etc. Mais au final, c'est quand même pas un codec, un format ouvert et disponible pour tous.
Ouais.
Donc, arrivée de WebM, Google dit on va donner le WebM à tout le monde. Tout le monde se dit ok, super. En plus, Google, ils ont Yahoo. Google, ils ont le lapsus. Google, ils ont YouTube. Donc, ils vont mettre le WebM partout. Ça va être super. On va être libre. Et Mozilla s'engouffre dans la brèche. Mozilla, donc la société, enfin même pas la société, mais si, c'est l'association qui gère Firefox, le navigateur internet très populaire. Ils se disent bon, ben on va donc laisser de côté H264 et on va aller à fond dans le WebM. Le problème, c'est qu'on est maintenant un an plus tard et le WebM ne s'est toujours pas imposé, non seulement parce que le WebM a des problèmes peut-être de matériel ou de choses comme ça, mais en plus parce que même Google avec YouTube n'a pas poussé le WebM, ne l'a pas poussé comme on aurait pu espérer qu'il le fasse. Et donc, j'en arrive au cœur de notre sujet, Mozilla a annoncé que Firefox allait, dans certains cas, revenir sur l'implémentation du H264, c'est-à-dire que pour les appareils qui peuvent déjà lire le H264, donc soit en logiciel, soit en matériel, eh ben ils autoriseraient la lecture du H264 sur leur navigateur. Alors,
j'ai plein de trucs à dire moi.
Vas-y, bah vas-y. Toi t'es le prince du libre, donc non, même pas vraiment. Mais
non, mais enfin j'ai plusieurs trucs à dire. Enfin, je pense que Mozilla a eu raison déjà de le faire parce que
traître, salaud,
non,
tu trahis le libre.
C'est la survie. Non, c'est la survie. Enfin, je veux dire, il se plie au standard quoi, parce que finalement le H264 c'est devenu le standard.
Ouais.
Et comme avec le MP3, Google a loupé le truc, hein, ça c'est sûr. Mais même s'ils avaient réussi, je suis pas sûr. Enfin, même s'ils avaient poussé plus, je suis pas sûr qu'ils seraient passés devant le H264. Parce que déjà en termes de qualité, bon, le H264, ça peut se discuter longtemps, mais c'est c'est ce qui se fait de mieux. Il y a aussi, comme avec le MP3, il y a le même truc avec le MP3. Tu disais, il y a toute la partie, toute la communauté pirate entre guillemets là qui vient d'élire le H264 comme son nouveau standard. Donc ça va être bientôt fini le DivX. Maintenant, ça va être le H264. Il y a ça aussi, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les marchés, on va dire, légaux, c'est-à-dire que c'est surtout tout le côté un peu underground de ce que les gens utilisent dans la vraie vie qui fait que...
Ah bah c'est ça qui a popularisé le MP3 finalement à l'origine.
Et le DivX et même le MKV qui était un simple conteneur fait par un mec, un truc en apparence tout pourri qui n'aurait jamais été poussé. Maintenant, voilà, c'est supporté par tous les players, etc.
Et d'ailleurs, même les logiciels qui permettent d'exporter font du H264 et j'en connais encore très très peu qui font du WebM, quoi.
Oui,
c'est aussi, les créateurs de contenu vidéo font du H264.
En fait, tout le monde s'est plié au parce que c'est, enfin, mais ça c'est, enfin ça c'est pour moi c'est un peu genre c'est le côté naturel de la techno. Enfin, les boîtes peuvent pas forcément influer sur le truc. Les gens vont s'approprier un format ou un autre. Parce qu'ils ont plus d'affinité ou parce que voilà c'est il est mieux, etc. Mais c'est pour moi ça c'est 100% naturel, on peut rien faire contre quoi, faut accepter, même si c'est un format sous licence. voilà, les, on pourra faire
c'est l'état de la réalité, quoi. Tu peux pas, voilà, tu peux pas combattre la réalité simplement parce que t'as décidé que
c'est de la nature, quoi. C'est de la nature, pour moi. La nature l'a remporté.
Il y a une illustration marrante, effectivement. On peut se dire que Google aurait pu pousser plus. C'est sûr qu'ils auraient pu pousser plus, notamment avec Chrome, par exemple. Si le navigateur Chrome n'avait plus lu les vidéos en H264, ça aurait peut-être poussé un petit peu plus. Mais bon, c'est
les gens ont rigolé. Théorique.
Oui. Et il y a une illustration très très belle sur l'article de Ars Technica que j'ai sélectionné avec une phrase, enfin c'est une image et il y a une phrase qui dit Chrome va certainement annuler son support du H264. Attendons juste un moment et c'est l'image d'un squelette sur un banc. Donc effectivement Mozilla, moi je pense que c'est la conclusion de tout le monde, ils auraient pu attendre très longtemps. Mais bon, pour faire quand même un petit
ils
peu
tenté,
le,
hein. Ils ont tenté,
oui, ils ont essayé, oui. Mais pour faire un petit peu quand même le, pour pousser la réflexion à fond, parce que je sais qu'on a des fans de logiciels libres parmi les auditeurs. Est-ce que c'est pas quand même une petite trahison du libre, quoi? Parce que c'est clairement un abandon, quoi. Ils jettent l'éponge un petit peu, Mozilla.
Je pense pas qu'ils jettent l'éponge. Je pense qu'en fait, dans l'idée, c'est que, bon, d'une part, ils essayent de vivre ou de survivre. La Fondation Mozilla, c'est pas une société, donc ils gagnent pas d'argent. C'est pas, voilà, ils ont pas de but mercantile derrière. Après,
ils gagnent beaucoup d'argent avec leur deal avec Google pour le moteur de recherche, mais oui, leur but c'est pas de faire de l'argent, c'est sûr.
Et leur but justement, c'est d'essayer. Ils ont la chance de pouvoir expérimenter des trucs. Ils ont essayé de pas le mettre. Voilà, c'est pas forcément une bonne idée. Donc là, ils y retournent et reconnaître. Enfin, pour moi, c'est pas reconnaître une erreur, mais il y a un petit peu de ça quand même d'arriver à faire machine arrière et de voir ce que ça donne, quoi. Ils expérimentent grandeur nature un navigateur.
Ils ont pas non plus envie de se marginaliser. S'ils supportent pas le H264, un autre le fera, ils perdront de la vitesse. Ça serait débile pour eux, quoi. Enfin.
Oui. Tinus précise dans la chatroom une chose intéressante qui change pas sur le fond de la philosophie, mais qui est effectivement importante. Ils disent que Mozilla ne paye pas la licence pour le H264. Ils ne font qu'activer la lecture pour une plateforme qui l'utilise déjà. C'est-à-dire que ils ne soutiennent pas le consortium du H264. C'est juste que si il est installé sur une machine où la licence est déjà payée, où le système lit déjà le H264 en logiciel ou en matériel, ils peuvent le faire passer, mais Mozilla eux-mêmes ne payent pas la licence.
Mais
c'est important à préciser, quoi.
Elle est payante pour la lecture. Moi, je pensais que c'était genre pour l'encodage, quoi. Par exemple, si YouTube encode ses vidéos, c'est eux qui payent. Mais moi, si je fais un player, enfin, si VLC fait un player qui lit le H264, ils payent pas de licence, si.
Je t'avoue que je suis pas certain. Moi, je crois que c'est pour le logiciel qui va encoder ou pour le logiciel qui va lire. Mais peut-être pas pour le logiciel qui va lire. Je sais pas. J'avoue que là, je déclare forfait.
Ouais.
Bon, si quelqu'un a un petit peu plus d'éclairage sur le sujet, c'est quand même une question annexe, mais tout de même, venez nous le dire sur le blog de l'émission, enfin sur le blog nowatch.net/RDV. Ça vous amène direct sur les articles du Rendez-vous Tech. Comme ça, vous pourrez nous dire là où on s'est trompé. Et on enchaîne avec un autre sujet, un petit peu plus ludique justement cette fois-ci, c'est le jeu sur iOS, enfin je sais pas si c'est vraiment un jeu, c'est un passe-temps, c'est une sorte de Pictionary qui s'appelle Draw Something sur les portables, sur iOS et Android, qui a eu une sorte de succès météorique invraisemblable, dont on a parlé d'ailleurs dans le dernier upload, qui est une sorte, bon je vais pas faire le test de l'application, je vais juste vous dire, c'est une sorte de Pictionary finalement, à un contre un et en asynchrone. Donc vous faites votre dessin, l'autre devine quand il veut, puis il vous renvoie un dessin, vous devinez quand vous voulez, etc. Et cette application a eu un succès invraisemblable, elle est sortie si je ne m'abuse en février, et la société qui fait cette application, qui développe cette application, qui s'appelle OMG Pop, et alors le jeu est déjà devenu le premier jeu sur Facebook au-delà des jeux de Zynga, et entre le moment où j'ai écrit la news Zynga qui était hyper populaire, entre le moment où j'ai écrit la news et le moment où l'épisode est en cours d'enregistrement, en fait il s'est passé énormément de choses puisque Zynga a racheté OMG Pop pour un peu moins de $200 millions.
Ils ont pas perdu de temps.
Ils ont vraiment pas perdu de temps. Ce qui est incroyable, c'est que Ah tiens, c'est Redwin nous dit, les revendeurs de produits et services utilisant la norme H264 doivent payer des droits pour l'utilisation d'une technologie brevetée. Et je crois qu'il y a pendant quelques années, genre 10 ou 15 ans, une exemption pour les gens qui encodent. Mais bon, bref. Pardon. Donc, on revient sur OMG Pop et Zynga. Donc, Zynga, le prince du jeu sur Facebook, rachète OMG Pop. Ils ont vraiment pas perdu de temps. Une chose sur laquelle il y aurait énormément de choses à dire sur ce sujet, mais moi je voudrais plutôt m'apesantir sur une autre analyse qui est à mon sens beaucoup plus intéressant que le fait que Zynga rachète OMG Pop, ce qui est finalement pas tellement surprenant parce qu'ils ont racheté énormément de boîtes dans ce domaine. Moi ce qui m'intéressait beaucoup, c'est que OMG Pop et leur Draw Something est devenu le premier jeu sur Facebook. Mais sur Facebook, c'est quelque chose de relativement subtil de dire sur Facebook, parce qu'ils utilisent le graphe Facebook pour vous connecter à vos amis. Mais par contre, Facebook eux-mêmes ne voient pas le jeu sur leur plateforme. Ce qui veut dire que quand OMG Pop monétise ce jeu, ils le font avec la vente d'objets par iOS ou par Android. C'est-à-dire qu'eux, ils vont vous vendre des pièces, des machins comme ça, par le système d'achat Apple. Et donc, ça veut dire que Facebook, dans cette histoire, ne va pas voir l'argent qui transite par Android et iOS. C'est vachement intéressant parce que le jeu est le plus populaire sur Facebook, mais Facebook ne voit pas d'argent. Et là, à mon avis, il va se passer un truc et Facebook
mais
va...
Mais il n'est pas populaire sur Facebook.
Eh ben, c'est ça le truc, c'est qu'il est pas sur Facebook, mais il utilise le graph Facebook. Tu vois, c'est-à-dire que le jeu n'est pas disponible sur Facebook, mais par contre, il est compté
les API,
comme
la techno.
C'est ça, il est compté comme l'un des jeux les plus populaires sur Facebook, alors qu'il ne l'utilise pas. Celui juste avant, si je ne m'abuse, c'était Words with Friends de Zynga, toujours qui a racheté la société qui éditait ce jeu, et lui non plus n'utilise pas, n'est pas disponible sur Facebook, si je ne m'abuse. Donc c'est quand même, c'est quand même.
Facebook, ça apparaît assez longtemps impuni.
Ouais, je pense. J'ai envie de réfléchir à un nouveau truc, je pense.
C'est bien possible. En tout cas, moi, je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire parce que finalement, s'ils disent, ah ben non, finalement, vous ne pouvez pas, vendre des objets, enfin, utiliser notre graphe si vous monétisez ailleurs que sur notre site, les gens vont, est-ce qu'ils vont pouvoir, il va y avoir une sorte de conflit, quoi. Est-ce qu'on utilise la monétisation par Facebook ou par iOS ou par Android? Chacun de ces trucs est un petit peu relativement exclusif, donc,
Après, je sais pas si Draw Something, enfin, OMG Pop, pour eux, c'est plus rentable de passer par le système, par le business iOS ou plutôt de passer par le business Facebook au niveau de,
reverser, quoi. Si je ne m'abuse, je ne pense pas qu'ils puissent passer par la vente d'objets par Facebook s'ils sont sur iOS, puisque les conditions d'utilisation drastiques d'Apple interdisent ce type de procédure, je crois bien.
Et puis, ils ne peuvent pas faire autrement.
Ouais, exactement. Donc, ceci dit, Facebook n'est pas vraiment la société la plus, la plus pauvre de l'histoire, donc.
Ça me choque pas trop cette utilisation de graphes sociaux, parce que, enfin, je veux dire, il y a plein de sites aussi qui ont des Facebook Connect, etc., qui, je sais pas, qui monétisent, voilà.
Oui, c'est vrai, t'as pas tort. Il y a des sites qui utilisent Facebook Connect ou le, mais tu vois la différence, c'est que, avec Facebook Connect, quand tu utilises le système de commentaires de Facebook, par exemple, ou ce genre de choses, eh ben, dans les parties de Facebook, il y a aussi des liens facilement accessibles vers les profils des gens en question, ou tu vois, ça te ramène plus ou moins vers Facebook. Là, c'est juste utiliser ta liste d'amis. Ouais. Mais bon, ça garde l'importance
ouvert,
de Facebook.
Je pense que, enfin, si Facebook l'a laissé, si c'est possible, je pense que Facebook le sait, à mon avis. Oui. Enfin, c'est voulu, quoi. Après, là, c'est vrai que c'est un ovni. Les mecs se font un max d'argent. Comme ça, ça passe un peu à côté. Mais bon, moi, je serais Facebook, je laisserais faire, même si c'est un peu...
C'est sûr.
Ça fout un peu les boules, mais...
Bah, disons que si tous leurs jeux, si tous les jeux les plus populaires de Facebook sont des jeux qui sont sur les machines portables et que Facebook ne voit jamais l'argent... À mon avis, ils vont essayer de trouver un truc pour monétiser cette partie aussi, parce que bref.
À noter que Draw Something est quand même un logiciel, une appli qui permet de dessiner tout ça, des choses assez sympathiques et tout. Mais l'interface est quand même super pourrie. Je sais pas si vous avez essayé un petit peu. suis en train d'installer, moi. Personnellement, je me suis dit, bon, bon, là, du fait qu'ils se sont fait racheter, peut-être que ça va être un petit peu mieux dans les prochaines versions. Mais le truc est quand même plus nul.
Ah bah l'interface c'est très c'est bare bones, hein. Oui c'est sûr.
C'est moche. C'est ça. J'étais ouais, un peu déçu quoi. Mais bon apparemment ça fera une personne pour y jouer donc.
Voilà, ah bah non c'est tellement simple que. Oui ouais. on sent l'œil du designer qui est écorché par la.
Ah j'étais déçu mais bon je perds pas espoir.
Moi ce qui me freine c'est que j'ai oublié mon mot de passe Facebook tellement je l'utilise pas.
Voilà. Moi bon, ce qui m'a freiné c'est d'enregistrer quand tu te connectes à Facebook tu me demandes de d'accéder à mes données, à être connecté en permanence sur mon Facebook, tiens. Donc j'hésitais à cliquer sur oui.
C'est vrai? Ça vous angoisse ça quand il y a une application ou un site qui vous demande d'utiliser vos données Facebook, ça vous angoisse encore vous?
Non.
En fait, pas vraiment, mais je sais jamais ce que ça peut publier à ma place ou envoyer comme message à ma place et je suis pas très au fait de ça, donc je fais gaffe quand même. Quoi.
À vrai dire, c'est ça, c'est un petit peu ça qui m'angoisse aussi. C'est le fait qu'on ne comprend pas s'il va poster sur notre mur ou
c'est
pas.
C'est ça. Si tu prennes les informations, c'est pas grave.
Il te le dit, tu le vois avant d'accepter le
oui,
truc
oui, t'autorise. Tu le vois, mais ils demandent tous l'autorisation de poster sur ton mur. Et tu sais pas quand il va le faire. Tu vois, il te le demande une fois et puis après. Donc c'est un petit peu angoissant. Mais au final, moi, je finis par dire oui et puis voilà quoi.
C'est ce que j'ai fait.
Bah pareil, ouais.
On verra.
Comme quoi, il pousse et ouais. Bon, dernier gros sujet avant de passer à deux petites premières impressions sur des appareils dont vous aurez peut-être deviné la nature. Un sujet sur l'iPad et enfin Apple et la Chine et This American Life. Est-ce que vous savez ce que c'est que This American Life?
Non, c'est une émission de télé-réalité, non?
C'est non, pas exactement. C'est l'une des émissions les plus sérieuses et les plus appréciées de la radio américaine. C'est sur la radio publique, donc c'est pas du tout le genre Transformers et Michael Bay. Hein, c'est vraiment une émission super sérieuse et très très appréciée, qui avait diffusé il y a quelques semaines de ça un épisode où un homme qui s'appelle Mike Daisy parlait de son reportage sur les usines Apple en Chine.
Ah oui,
et c'était un reportage qui était un petit peu à charge quand même, enfin carrément à charge. Et il était sorti... Pardon ?
C'est en ligne, je crois, ce reportage.
Oui, 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 il est disponible.
Ouais.
Et c'était sorti à peu près en même temps que le papier du New York Times, qui était lui aussi très à charge sur les usines Apple en Chine et les conditions de travail dans ces usines. Mmh. Alors... Le truc, c'est que il y a là encore une petite dizaine de jours, il y a eu une chose incroyable qui s'est passée pour This American Life, c'est qu'ils ont dû donner une sorte de lettre d'excuse et une rétraction de leur épisode. Et ils ont fait un nouvel épisode pour expliquer ce qui s'était passé, parce qu'il s'est avéré que Mike Daisy, qui avait produit cette émission, avait... Alors c'est un petit peu compliqué d'expliquer ce qui s'est passé, mais en gros, il avait très clairement menti sur ses expériences en Chine. Par exemple, il avait dit qu'il avait parlé lui-même de vive voix et qu'il avait rencontré des travailleurs des usines d'Apple, des usines où Apple fait fabriquer ses appareils, qui avaient été empoisonnés par ce produit dont je ne me souviens plus du nom. Un produit toxique. Ouais. Et il s'est avéré que c'était pas vrai. Il avait dit qu'il avait rencontré, qu'il avait vu des quantités d'enfants qui allaient travailler dans les usines Apple, et il s'est avéré que ça non plus c'était pas vrai. Il s'est finalement, en faisant de la vérification d'informations, et en retrouvant la traductrice de Mike Daisy, que les journalistes se sont rendus compte qu'en fait, son expérience telle qu'il la relatait n'était pas du tout exacte.
C'est qui ce mec ? Pourquoi il a mitonné comme ça ?
Alors, Mike Daisy, c'est un type qui fait du théâtre, en fait, qui fait un monologue depuis un an et demi, qui s'appelle « The Ecstasy and Agony of Steve Jobs », donc « L'extase et l'agonie de Steve Jobs », où il parle justement de ça, des conditions de travail en Chine. Il le fait depuis très longtemps, ça a beaucoup de succès, mais c'est une sorte de théâtralisation de la chose. Et dans le reportage, évidemment, avec This American Life, on s'attend à du journalisme. Et il l'a présenté comme du journalisme. l'excuse est un petit peu bidon, il faut avouer, hein, parce que franchement, pas se rendre compte que c'était du journalisme qu'ils attendaient, faut vraiment pas vouloir le voir. Mais bon, là où ça devient encore plus compliqué, c'est que une bonne partie des choses, peut-être pas les enfants de les enfants qui allaient travailler dans les usines, mais une bonne partie des choses dont ils parlent sont des choses qui sont avérées, genre l'empoisonnement aux matières toxiques de certains travailleurs, ça c'est quelque chose de vrai. Mais simplement, lui, il l'a pas vu. Et donc, il dessert le propos qu'il essayait de servir en mentant pour une raison dont on n'est pas tout à fait certain. C'était en gros, c'est un gros scandale qui... Bah, je sais pas très bien quoi en penser. C'est clairement pas une bonne affaire pour This American Life et Mike Daisy. Mais c'était un gros scandale il y a une dizaine de jours à ce sujet.
Le fait qu'il est comédien ou acteur, c'est ce que tu disais, hein.
Ouais.
Peut-être que pour lui, c'est un genre de performance où il a peut-être, il a peut-être tenté quelque chose dans son métier de comédien et d'acteur
pour faire croire
à quelque chose de réel, mais en jouant à la comédie, quoi. Et ouais, comme tu dis, Manu, il est grillé.
Ah bah là, c'est sûr que ça va être difficile de le prendre au sérieux maintenant. Et puis, bon, ça a quand même, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que Apple n'a pas poursuivi en justice, n'a pas attaqué ni Mike Daisy ni This American Life, alors que certaines choses effectivement s'étaient produites, certaines autres ne se sont jamais produites. Et je pense que c'est un exemple assez intéressant d'une sorte de piège qui se referme sur une situation, parce que s'ils avaient attaqué, s'ils avaient démenti, ça serait forcément retourné contre eux.
Ouais, ils étaient pas sûrs, peut-être, qu'il y avait des gosses qui bossaient, ils savaient pas trop, donc ils ont pas osé.
C'est possible aussi, bien sûr. Il y a effectivement de ça, et ils ont, ça aussi, c'est un petit peu controversé. Ils se sont, associés à une association pour le travail éthique, etc., qui va faire des inspections, en Chine. Mais bon, c'est vrai que c'est une situation un petit peu compliquée, quoi. Mais en tout cas, depuis que l'article du New York Times et cette émission sont passées, les choses ont pas mal bougé pour Apple en Chine, et c'est dommage que ça aurait été tellement plus propre s'il avait pas fait cette sorte d'exagération, parce que ce qu'il dit ou ce qu'il aurait pu montrer, a priori il aurait pu le faire sans en rajouter, quoi. Donc bref, ça a fait les choux gras de la presse là il y a une dizaine de jours, donc je voulais en parler.
Le problème avec les podcasters, c'est qu'ils ont un égo surdimensionné, ça a pu s'arrêter. Hein.
Bon, on va parler de deux petites choses. Pardon, oui, Geoffrey, non, vas-y.
J'ai dit qu'il était méchant, c'est pas grave.
Oh, mais ça, on a l'habitude. Deux petites choses, enfin, deux choses moyennes. L'iPad. D'abord, iPad 3, premières impressions. J'en ai livré des impressions assez longues dans l'upload de la semaine dernière, donc je ne vais pas remettre le couvert. Si vous voulez savoir ce que j'en pense, allez écouter l'upload en question. Je vais par contre corriger un truc que j'ai dit la dernière fois dans le rendez-vous tech. La 4G sera peut-être fonctionnelle en France. Donc, contrairement à ce qu'on pensait à l'origine, la 4G, quand elle sortit...
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
sortir en France à des tarifs exorbitants pour des quantités de données ridicules, eh ben on pourra peut-être les utiliser avec nos appareils 4G, donc super. Enfin, nos iPads 4G, en tout cas, qui ont les bonnes bandes de fréquence, il semblerait. Autre info à propos de cet iPad, on se demandait s'il allait avoir le succès qu'avaient connu les appareils précédents. Bah, finalement, Apple en a vendu 3 millions en 4 jours, donc je pense qu'on peut dire que c'est un succès. Hein. Si vous multipliez par le prix, vous vous rendez compte qu'ils se sont fait un petit peu d'argent. Et dernière info sur Apple, c'est que Apple a annoncé, et Tim Cook a annoncé, que Apple allait désormais verser des dividendes aux actionnaires et faire du rachat d'actions pour éviter la dilution. Il faut savoir que même avec les dividendes qu'ils vont donner, ça va pas être énorme, mais même avec les dividendes qu'ils vont donner, s'ils continuent à engranger autant d'argent qu'ils en engrangent aujourd'hui, leur réserve de cash va continuer à augmenter, a priori. Donc... ça va, ils peuvent en donner un petit peu aux actionnaires, c'est pas la trahison ultime, on va dire. Ouais. Vous avez touché à l'iPad 3, vous ? Vous avez des impressions à donner ou...
Moi, j'y ai touché avant tout le monde, là, en Australie. Parce que, juste de sortir, il n'y avait pas la foule, il n'y avait pas la queue, il n'y avait rien, tout le monde s'en foutait, quoi.
Ouais.
C'était pas l'euphorie comme en France, ou je sais pas.
Bah, je crois que il n'y avait pas énormément de queue cette fois-ci. Hein. C'était, beaucoup de gens l'avaient précommandé, mais il y avait vraiment.
Moi, j'ai... Dans la Play Store, il y avait 2-3 personnes, quoi.
Ouais.
Je suis pas un grand expert en iPad, donc je vais pas dire grand chose, mais oui, il a un bel écran, oui, il est plus lourd, c'est un peu une régression, je trouve. Enfin, voilà, il est un peu plus lourd, il est bon. Mais il est pareil en fait.
Il fait 60 grammes de plus, je crois.
Moi j'ai testé aussi, ouais, en effet, il est plus lourd, tout ça. Là où j'ai été un peu déçu, c'est qu'Apple, pour moi, leur truc, c'est l'innovation, de surprendre et tout. Là, il a joué un peu la Samsung, genre on est plus performant, on affiche plus de trucs, on est plus balèze, mais donc ça c'est pas très marrant, quoi. La course à la Kiki, c'est pas drôle.
Ouais.
Par contre, au niveau de la qualité juste de l'écran, moi j'ai comparé, j'avais l'iPad 2 à côté de l'iPad 3. Quand vous lisez un texte en dessous des icônes par exemple, sur le 2, on voit les pixels, sur le 3, on voit plus les pixels.
C'est
un plaisir incroyable.
Ouais, l'écran est génial. Ouais. Ça, c'est
on n'est pas sur du e-paper encore, mais on n'est pas non plus sur un écran où on pourrait afficher des trucs vectoriels, mais on a quand même une qualité de texte juste hallucinante. Ouais, hein. Ça, pour la lecture, j'y crois de plus en plus par rapport à ça.
Bah moi j'ai effectivement mes deuxièmes impressions après mes premières impressions, c'est effectivement que l'écran. Contrairement à ce qui s'est passé avec l'iPhone 4, moi je voyais pas vraiment, ça me frappait pas au quotidien la différence avec le Retina sur l'iPhone 4. Là, j'avoue qu'au quotidien, ça fait plaisir quand même à voir. Je constate la finesse, quoi. C'est vraiment un bel écran et ça me. Là où je m'en apercevais pas du tout sur l'iPhone 4, j'en avais vraiment rien à faire. Sur l'iPad, bon, c'est vrai que ça me frappe à chaque fois que je le rouvre, même quand je suis habitué. Maintenant, je reste sur mon analyse, ma conclusion. Si vous avez un iPad 2, je pense pas que ça vaille vraiment.
Moi, je suis pas un puriste. Enfin, tu regardes une belle photo sur iPad 2. Elle est peut-être un petit peu plus jolie sur le nouvel iPad, mais enfin voilà, c'est quoi la différence, quoi.
Non, sur les photos pas forcément, mais sur les textes, d'une manière générale, moi je pensais aussi que ça me frapperait pas, comme je le disais sur l'iPhone, ça me frapperait pas.
Ça vaut pas le coup de changer, quoi. Enfin, je veux dire, le changement. Ouais. Si t'as pas d'iPad encore, bon, ok, tu prends le dernier, t'es content, mais si t'as déjà un iPad 2, je vois pas l'intérêt. Enfin, y a rien d'excitant.
Ouais, on est d'accord. C'est vraiment, ça va un petit poil plus vite. À peine, l'écran est plus beau, mais iPad 2 ça vaut pas le coup. iPad 1, si vous l'utilisez beaucoup, pourquoi pas, mais bon.
Ouais, je disais qu'il n'y avait pas de révolution dans les usages, dans l'interface,
c'est ça.
Et ils ont fait le même coup avec le 4 et le 4S. Hein.
C'est ça.
Un petit peu, tout à fait. Ouais.
À voir.
Donc voilà, donc c'est pour les gens qui sont séduits par la pomme mais qui n'ont pas déjà l'appareil précédent. Je pense que c'est le but, hein. Évidemment, ils vont jamais vous dire n'en achetez pas si vous avez déjà le modèle d'avant. Mais bon, je pense qu'ils s'attendent pas à ce que énormément de gens qui ont le modèle d'avant l'achètent. C'est plus la mise à jour, quoi, pour ceux qui sont intéressés. Ouais. Et par contre, c'est clair que si vous êtes plutôt fan d'Android ou d'autres choses, c'est pas ça qui va vous convaincre. Par contre, un truc qui vous convaincra peut-être, c'est Windows 8. Et là, j'espère que l'un de vous au moins l'a testé, parce que moi, je suis tombé complètement gaga de Windows 8. Je le trouve d'une qualité absolument invraisemblable. Comme certains le savent peut-être, la version Consumer Preview, donc presque finale, est sortie au Mobile World Congress. On en avait parlé. Et... Et donc, on peut l'installer, n'importe qui peut la télécharger et l'installer, ce que j'ai fait. Et pour mes pensées complètes sur le sujet, il y a un article sur mon blog sur patrickbeja.com, mais je vais résumer pour dire que pour moi, Microsoft réussit la consumérisation, la iOSification du desktop, là où Apple avec macOS, avec macOS Lion et Mountain Lion, ils sont allés à tout petit pas, hyper prudents, presque timides. Eh ben, Microsoft y va à fond et ça marche. C'est-à-dire que, évidemment, ça va pas être un OS pour moi ou pour même sans doute la plupart d'entre vous, pour l'utilisation générale, ça sera sans doute un petit peu limité. Par contre, pour une énorme partie de la population, ça devient enfin l'informatique utilisable, super simple, évidemment un petit peu limitée, mais super simple, qui va permettre aux gens d'utiliser leur ordinateur sans avoir besoin d'appeler leur fils ou leur neveu toutes les 10 minutes, quoi. Ils le feront tous les 3 jours.
C'est pas limité, hein. Enfin, je sais pas si pourquoi tu dis limité, mais...
C'est un petit peu limité. Oui, non, c'est vrai, parce qu'on a tendance à dire que les tablettes et ce genre de choses, c'est un petit peu limité. C'est vrai que sur Windows, il y a aussi la partie desktop, mais pour moi, la partie desktop sur Windows 8, c'est vraiment complètement accessoire, tu vois. C'est un truc, la plupart des gens vont pas s'en servir. Vont servir de l'interface métro qui est très simple, très carré.
Justement, au moment où tu te heurteras à ces limites, tu pourras passer sur le desktop.
Si tu passes sur le desktop, c'est plus exactement la même machine. C'est presque comme avoir deux machines différentes. Tu peux faire les deux, sûr, mais tu vois ce que je veux dire. C'est la consumérisation du desktop, c'est le fait de permettre Microsoft qui va permettre à tout le monde d'utiliser l'informatique pour 80% des choses qu'ils font, pour 80% des usages, 80% du temps, de manière hyper simple, de la même manière qu'une tablette iOS ou autre vous permet de faire la plupart des choses. Et là, ils réussissent sur le desktop de manière magistrale pour moi, parce que ça marche en touch, en souris, super bien, c'est super facile à utiliser, c'est efficace. Enfin, pour moi, c'est une vraie
réussite. En souris, j'étais très surpris d'avoir justement, je l'avais vu en touch, ça marchait vraiment bien. Bon, l'interface métro, on peut faire que des éloges parce qu'ils ont vraiment, ils ont enfin fait quelque chose qui dépasse pour moi tout ce qu'il y a sur iOS, etc. En termes, juste en termes d'ergonomie, en termes de lisibilité, en termes d'interface. Ouais. On n'est pas sur des petites icônes, etc. Là, on a du contenu directement accessible. Là où j'étais très suspicieux, c'est comment est-ce qu'on bosse avec ça, comment est-ce qu'on travaille avec ça. Bon, déjà la souris, comme tu dis, Patrick, ça se passe plutôt bien. Ils ont bien pensé de la manipulation de la souris, etc. Et comment est-ce que tu gères une interface qui soit et tactile et utilisable à la souris. Et
ensuite, ce qui était un challenge énorme, hein. Personne pensait que c'était possible, quoi.
Bah oui, personnellement, moi j'aurais été le premier à dire qu'il fallait faire peut-être éventuellement deux interfaces, ou ça aurait été compliqué. Et après, dans l'idée, c'est de, comme tu dis, 80%, c'est vraiment de regarder des images, des vidéos, de répondre à ses mails, etc. C'est du grand public. Et après, quand tu veux vraiment bosser, malgré tout, tu peux. Et même si pour l'instant la transition elle se fait difficilement parce que tu retournes sur le desktop et c'est un peu comme si c'était un cache-misère, tu sais, voilà, tu vas bosser, donc c'est moins agréable. Mais je désespère pas que tu travailles sur cette partie desktop un peu plus en détail.
Bah, c'est vraiment cette impression que j'ai, moi, c'est qu'en plus, il va y avoir, on le sait, une version de Office qui sera accessible aussi sous cette interface métro, qui permettra aux gens de travailler assez facilement et de manière assez complète, hein. Ça va pas être limité comme sur iPad, par exemple. Là, on a vraiment du mal à écrire un texte. À mon sens, sur Windows 8, ça sera beaucoup plus facile, même avec l'interface métro. Et là où c'est carrément ironique, c'est que cette prophétie que faisait Steve Jobs à la conférence All Things D il y a peut-être 2 ans, en disant je pense qu'un jour il y aura les ordinateurs qu'on connaît aujourd'hui qui seront des sortes de camions qu'on sortira de temps en temps pour des choses spécifiques, et les ordinateurs un peu plus simples comme iOS ou comme d'autres qui seront les voitures qu'on utilise tous les jours, eh ben c'est pas Apple qui le fait, c'est Microsoft, et ils y arrivent complètement, quoi. Donc moi c'est ça qui m'a vraiment frappé quand j'ai essayé Windows 8.
Bah là tu te
je m'emballe trop.
on verra l'usage quand vraiment ça sera sorti pour le grand public, tout le monde sera dessus ou pas, enfin ce que les gens vont dire, tu vois.
Mais c'est ça qui est la force de Microsoft, c'est que Microsoft, ils vont le vendre à tout le monde, Windows. Il va être partout. On va pas pouvoir y échapper.
Et l'impôt.
Et oui, c'est ça. Et il l'impose, là aussi, c'est un truc que je dis dans mon article, il l'impose de manière carrément jobsienne et appelienne, quoi. Ils y vont à fond, ils ne font aucun compromis, ils disent c'est comme ça que ça va être, on a hyper bien réfléchi le truc, et c'est comme ça que ça va être, et ben vous avez pas le choix, vous le faites comme ça. Alors oui, il y a sur certaines machines la version desktop classique, mais ils misent à fond sur l'interface métro.
S'ils imposent, je pense, parce qu'ils font confiance à ce qu'ils ont créé. S'ils étaient pas sûrs d'eux, ils laisseraient le choix, ou ils laisseraient un truc pour switcher. Là, ils sont à peu près sûrs d'eux, ils l'ont éprouvé avec Zune il y a très longtemps, et avec le mobile plus récemment. Là, ils le sentent bien, donc bon, je suis très curieux de l'utiliser au quotidien, quoi.
Et c'est sûr que c'est pas tout le monde qui va utiliser ça comme ça avec l'interface métro, hein. Il y aura des gens qui vont même rester sur Windows 7, à mon avis, surtout dans les milieux professionnels, ça risque d'être plus prudent, etc. Mais
non, ils vont passer en Windows 8 en désactivant métro.
C'est possible. Est-ce que vous voyez vos parents ou des gens qui sont pas forcément familiers de l'informatique, vous pensez pas que Windows 8, l'interface métro, est plus séduisante pour ces gens-là?
Si, je pense. Je sais pas, enfin,
c'est pas moi qui me fais mes films, quoi. Je veux dire, il y a quand même un truc, non?
Tu mets des gros carrés, tu te retrouves sur un ordi PlaySchool. Oui, les gens préfèrent,
au niveau des usages, on a vu toutes les vidéos avec les enfants, les personnes âgées qui utilisaient un iPad. Tout le monde a été bluffé, et ça, c'est juste en termes d'ergonomie, c'est des choses d'ergonomie. Après, c'est vrai que si le grand public et nos parents ou nos grands-parents utilisent Windows 8 de la même façon, ça va permettre
Tu vois, les enfants savaient utiliser l'iPad grâce à l'ergonomie d'Apple, maintenant les chiens sauront utiliser Windows 8 grâce à l'ergonomie de Windows.
Ils font encore plus loin.
Ils font encore plus fort, quoi.
Et Android vise les limaces, attention.
Ouais, bah en tout cas, moi, le truc qui... l'allégorie qui m'a frappé, c'est que... enfin, le truc, quand j'y pense, ça me fait comprendre que nos ordinateurs sont trop compliqués, c'est que nos parents... Bon, d'une part, ça fait 30 ans qu'ils essayent d'utiliser des ordinateurs, ils n'y arrivent pas. Peut-être 20 ans. Et d'autre part, oui, non, mais ça, c'est ta mère, c'est pas pareil.
Ubuntu.
La maman d'Orn, non, mais ça compte pas, c'est une maman hors du commun, ça. Mais, non, mais, si tu veux, si nos parents ne réussissent pas à programmer leur magnétoscope, ou ne réussissaient pas à l'époque où ils avaient des magnétoscopes, comment veut-on qu'ils s'en sortent dans un truc comme Windows, ou même comme macOS, hein? C'est 10 fois trop compliqué, donc.
Bon, ils arrivent à remplir leur déclaration d'impôt, je pense qu'ils peuvent arriver à installer un Linux, hein, franchement.
C'est pas plus compliqué. Bon, avant de passer à nos news et rumeurs qui vont conclure l'émission, je vais vous parler un tout petit instant. On a fini, hein, sur Windows 8, on enchaîne ?
Oui.
Je vais vous parler un tout petit instant de la boutique NoWatch, parce que vous le savez, la boutique NoWatch.net, enfin la boutique NoWatch est accessible sur NoWatch.net et elle nous aide à financer les activités du type la Comic-Con, où on sera encore cette année. C'est une boutique où vous pourrez retrouver toutes sortes de t-shirts d'objets différents aux couleurs de vos podcasts préférés. Il y a d'ailleurs le t-shirt Aggie Shroom qui vient de sortir, qui est disponible. Il y a le Magneto de Geeking qui est là depuis un moment. Il y a le Scuds Metal. Ils sont même disponibles en body bébé. Donc Corben, si tu veux vêtir ton petit, tu peux y aller. Il y a des trucs
avec plaisir,
intéressants. donc voilà, vous pouvez aller accéder à cette boutique sur le site nowatch.net. Il y a dans la barre un onglet boutique. Vous cliquez dessus, vous y arrivez, vous faites du shopping, vous faites plaisir et vous nous filez un coup de main. Donc il n'y a pas de raison de se priver. D'autant plus que la boutique va bientôt changer. Elle va être fermée pendant un moment, on va transformer en une autre boutique qui va avoir plein d'autres objets super intéressants aussi, mais ces objets-là ne seront plus disponibles pendant quelques temps, donc si vous les vouliez et que vous disiez « bon, je vais attendre encore un peu », ben c'est le moment parce qu'elle va bientôt fermer pendant quelques temps. Donc, la suite, c'est les Zap Info, enfin les news et rumeurs qu'on appelle aussi Zap Info. C'est une partie où je parle pendant quelques minutes, enfin je fais un court résumé de chaque info et vous m'arrêtez, vous deux, si vous voulez intervenir, vous faites une sorte de bip.
De buzzer,
je sais pas, voilà, de buzz. Voilà, exactement, si vous voulez intervenir sur l'un des sujets en question. Première chose, on parle depuis pas mal de temps d'éducation. dans l'émission avec les, ça avait été commencé par l'iBook Store et cette histoire de d'éducation par Apple. Eh ben, il y a l'un de mes sites et l'une de mes initiatives préférées dont je parle tout le temps qui s'appelle TED. C'est une conférence où il y a les conférences en fait les plus intéressantes du monde qui se lancent dans l'éducation aussi, où ils vont faire un programme où ils invitent tous les éducateurs, tous les profs du monde à leur proposer des cours qu'ils vont faire illustrer par des illustrateurs et qu'ils vont proposer gratuitement sur le web. Je trouve que c'est une super initiative. Et je vous encourage à aller voir TED-Ed. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, oui, vas-y.
Je voulais juste demander, est-ce que ce sont des vidéos qui sont dessinées ou est-ce que ce sont de l'infographie, de la database, un truc comme ça?
Non, c'est des illustrations, en fait. Ils vont travailler avec toutes sortes d'illustrateurs différents. Il y aura pas un style défini. C'est vraiment des illustrations pour... En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils envoient une valise au prof. Il y a un iPad et un système d'enregistrement dans la valise. Donc, le type enregistre son cours et après, ils le font illustrer par quelqu'un d'autre. Donc, ça va être à chaque fois des trucs individuels indépendants, quoi.
Et ça sera exposé dans des musées, sur Internet, c'est ça?
Non, c'est des vidéos sur Internet, sur la chaîne YouTube de TED-Ed, et c'est disponible à tout le monde.
C'est génial, ils sont forts, TED.
Donc si vous connaissiez pas TED, allez y jeter un coup d'œil. Si vous ne connaissez pas TED-Ed, allez y jeter un coup d'œil aussi. C'est super.
Moi, je pense à tous ceux qui parlent pas anglais couramment.
C'est ce que j'allais dire.
J'encourage ceux qui parlent anglais à faire les sous-titres aussi pour les autres.
Par exemple, il y a beaucoup de trucs sont sous-titrés sur TED.
Donc,
c'est collaboratif, donc si vous parlez bien anglais, n'hésitez pas, au lieu de sous-titrer des séries américaines et partager illégalement ou des Naruto, allez sous-titrer du TED, ça sera plus utile.
Ah bah très très bien dit, je souscris totalement. La suite, c'est si vous voulez des trucs gratuits qui normalement coûtent très très cher, mais bon, vous ne les aurez que pendant quelques temps, il y a Photoshop CS6 qui est disponible en version bêta gratuitement pendant quelques mois. Si vous voulez essayer la dernière version de Photoshop, qui fait des trucs assez hallucinants d'ailleurs, vous pouvez la télécharger gratuitement chez Adobe. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de présentation des nouveautés de Photoshop CS6. J'ai trouvé ça hyper rafraîchissant. L'enthousiasme du vieux qui fait la présentation, c'est génial.
J'ai pas vu celle-là, mais j'ai vu quelques démos déjà, mais j'ai pas vu celle-là.
Mais c'est celle qui est sur ton site, Corben. C'est moi.
Ah
c'est,
bon, bah
c'est
non,
là
non,
que
je
l'ai
vu. Il
regarde même pas ce que
moi je me souviens pas.
C'est Russell Brown.
Ah, je me souviens plus, moi, je suis fatigué.
D'accord.
Mais je me souviens du truc là où il découpe le toit, il découpe le mec, il le déplace et tout.
C'est ça, c'est ça. Ouais. Bah c'était le type qui faisait la présentation.
J'ai fait abstraction du présentateur, je me suis concentré sur la démo.
Voilà, donc CS6 disponible partout. Il y a une pratique assez préoccupante aux États-Unis qui est le fait de demander aux futurs employés, aux employés potentiels, leur mot de passe Facebook pour s'assurer qu'il n'y a pas des choses un petit peu bizarres qui se passent dans leur vie. Évidemment, ça fait hurler tout le monde. C'est pour certaines personnes pour lesquelles on a besoin de faire des background checks assez poussés, si c'est des jobs un petit peu sensibles, il y a des employeurs qui demandent le mot de passe Facebook. Évidemment, c'est difficile de dire non, mais en même temps, il est évident qu'on veut pas dire oui. Eh ben, l'État commence à s'y intéresser et il est possible que la pratique soit interdite à l'avenir. Et d'ailleurs, Facebook, oui, le mot de passe Facebook.
Login. Moi, j'ai compris le login.
Bah, c'est le login et le mot de passe, pas juste ton nom pour qu'ils puissent voir ta page. Ils veulent aller voir ce que tu as fait. Ah oui, non, mais c'est très grave. Non, c'est pas en France, heureusement. Heureusement, mais c'est très très grave, effectivement. Et d'ailleurs, même Facebook a dit que si ce genre de choses se passait, il fallait les prévenir parce qu'ils seraient prêts à faire un procès à l'employeur en question, parce que c'est évidemment contre les...
En plus, ils sont cons, les employeurs, parce qu'avec un bon sniffer, t'as même pas besoin de mot de passe. Il suffit de récupérer la session et t'es logué direct.
Oui, encore faut-il que le mec se logue sur ton wifi, mais bon. Tu les mets dans une salle d'attente un peu longtemps, tu leur proposes le wifi et ouais, pas bête. Non, mais effectivement, en plus, les employeurs, imagine qu'il y avait un exemple qui avait été donné qui est assez, dans les blogs tech que j'écoute, qui est assez frappant. Imagine, l'employeur prend ton compte Facebook et finalement il ne t'emploie pas. Et imagine, tu es homosexuel. Eh ben, tu pourrais tout à fait penser que c'est à cause de ça, ou alors tu as une religion qui lui plaît pas ou machin. Tu pourrais dire, ben c'est à cause de ça, c'est potentiellement la raison pour laquelle j'ai pas été employé. C'est un procès qui peut leur arriver sur les dents, quoi. Donc bon, ah oui, c'est une pratique idiote, mais espérons que ça ne se s'étendra pas. Un autre truc que j'ai vu chez toi, Corben, c'était le MSN Live, le service de chat qui censure les liens Pirate Bay. C'est ouais. Incroyable.
C'est amusant, ouais. Enfin, ouais. Enfin, c'est amusant.
Ouais, c'est.
Oui, enfin, je trouve ça un peu débile, en fait, parce que, enfin, ça fait un moment que MSN, il bloque plein de trucs. Quand on transfère des fichiers, il bloque les .exe et machin comme ça pour protéger des virus, en fait. Bon,
ça peut se comprendre, hein, bloquer les
.exe. Ça peut se comprendre, ouais. Mais parce que bon, MSN c'est quand même un nid à choper des saloperies. mais par contre, bah The Pirate Bay, voilà, il y a pas grand risque de choper des virus. Il y en a hein, forcément, mais bloquer tout un site juste parce qu'il ouais. y a trois virus qui se baladent, c'est un peu. Ils disent que c'est pour la sécurité. Moi, je pense que c'est plutôt pour faire un pas vers les ayants droit, pour faire un peu de ouais lobby.
Les brosser dans le sens du poil, quoi.
Ouais, c'est ça, voilà.
C'est possible. Oui, parce qu'en plus, il y a même pas de raison. Il y a pas, c'est pas qu'il y a quelqu'un qui leur a demandé, c'est pas que.
Oh bah ça, non. On sait pas. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui leur a dit, ouais, MSN, ouais. C'est le premier vecteur d'échange de fichiers. Enfin voilà, de partage entre jeunes, machin. Faites quelque chose. Enfin, tu vois, c'est, ouais. ça se trouve, c'est pas rendu public, hein, mais.
À mon avis, on en. On va en entendre parler de cette histoire encore un moment. C'est bizarre. On va aller au fond du truc, je pense. Autre info, un petit peu plus française cette fois-ci, suite à la tragédie toulousaine, Sarkozy, donc notre président, veut punir la fréquentation de sites web terroristes, ce qui ne manquera pas de faire hurler pas mal d'entre nous.
Ou d'apologie de la haine et de la violence.
Ou d'apologie de la haine. Alors, bon, c'est encore un truc où, évidemment... Pardon, vas-y Geoffrey, tu voulais...
Il faudra fermer Facebook. C'est dur.
Effectivement. Mais c'est encore une fois, c'est le genre de truc un petit peu tendancieux parce que personne va dire oui, les sites d'apologie de la haine, c'est bien quoi. Évidemment, si on pouvait réduire,
c'est pas les sites qui va faire fermer en fait hein.
Oui. En fait, ce qu'il veut c'est trouver les gens qui consultent régulièrement les sites en question et les condamner pénalement de manière assez sévère en plus. Le truc, c'est que, comment dire, si on vivait dans un monde incroyable où tout était possible, s'il était possible de surveiller légalement ces sites et de voir qui y va pour faire avancer les enquêtes policières, bon, pourquoi pas? Je veux dire, ça fait partie de, effectivement, s'il y a une association de malfaiteurs, on va essayer de voir qui fait partie de cette association, qui a des affinités avec eux. Bon, c'est normal. Le problème, c'est que pour mettre en place ce dont il parle, il faut surveiller tous les sites, faire de la... Enfin, je sais même pas comment c'est possible, quoi. Comment tu vas pouvoir faire...
En fait, moi, j'ai deux sons de cloche. Ce qui vient tout de suite à l'esprit, c'est effectivement, c'est le DPI. C'est-à-dire que, bon, voilà, pour savoir si un tel ou un tel va souvent sur un site terroriste, il faut surveiller tous les Français en permanence et tracer tout ça.
Oui, mais c'est pas possible, ça.
C'est possible, mais s'ils le font, ça craint quoi.
Oui, non, mais oui, je veux dire, c'est possible techniquement, mais c'est pas ce dont ils parlent, je pense. Ce qu'ils voudraient faire, c'est repérer les gens qui vont sur ces sites-là. C'est pas surveiller la France entière. Enfin,
Il y a pas trop le choix, hein, parce que pour repérer les gens, il faut quand même les surveiller.
Oui. Bah oui, c'est sûr. Donc,
parce qu'en plus les sites, bon voilà, mais sinon le second son de cloche, c'est bah voilà, au hasard d'une perquisition pour autre chose, machin. Si effectivement, en fouillant dans l'ordi, on voit que le mec, il s'est connecté à 50 000 sites terroristes toute la journée, il peut avoir de gros soucis, quoi. Mmh. Voilà. C'est peut-être plutôt ça aussi.
Oui, donc ça, c'est déjà un petit peu plus compréhensible. Comme le dit Jérôme, si c'est comme une écoute téléphonique et que le juge donne un mandat pour surveiller cette personne en particulier et qu'on voit qu'effectivement, on a des doutes au début, on a des suspicions et on se rend compte qu'effectivement, il passe sa journée sur comment construire une bombe.com. Bon, là, effectivement, peut-être qu'on peut...
C'est aussi limite quoi, enfin parce que tu peux pas vraiment quantifier quoi. Si c'est si par exemple trois fois dans la journée j'ai pas de bol, je tombe sur le même site ou j'en sais rien. Enfin voilà.
Non mais évidemment c'est un truc où ça va pas être juste ça a priori. Tu vois, c'est pour ça qu'on dit il faut que ça soit fait sur des personnes spécifiques sur lesquelles on mène une enquête. Mais
c'est là, c'est que, enfin avant, c'est il y avait
bien la con quoi.
Avant, il y avait le Rickroll, et maintenant, tu enverras à tes amis une URL courte avec des sites d'armement, et ils auront la police chez eux. Ce sera génial. Alors,
le terror Rickroll.
Le terror Rickroll, c'est bon, ça.
Bon, autre chose, Sarkozy voudrait que les géants du net payent des taxes en France. C'est une idée qui revient régulièrement chez pas mal de gens, cette idée que les géants du net en question font beaucoup d'argent finalement sans être en France mais avec des Français, et ils voudraient qu'ils payent de l'argent dans le pays dans lequel ils font de l'argent, ce qui est pas une mauvaise idée, mais en même temps c'est le nouveau monde. Comment faire ça, comment mettre ça en place, c'est difficile.
Non mais c'est débile aussi, enfin le truc c'est que bah voilà, les mecs vont pas vouloir payer, mais ils vont arrêter leur service en français, ils vont laisser qu'en anglais, ou alors ils vont enlever leur bureau en France.
Pas si sûr. Disons que l'argument, c'est il faudrait qu'ils viennent s'installer en France, qu'ils ouvrent des bureaux en France, comme beaucoup le font déjà. Ça, oui, ok, pourquoi pas. Mais tu sais, mine de rien, s'ils font de l'argent, moi, je suis pas certain qu'ils veuillent forcément quitter, enfin, abandonner tout l'argent qu'ils font en France, parce qu'ils font de l'argent en France, au lieu d'en payer une petite partie. Ensuite, c'est une question,
oui, oui.
C'est une question de d'être raisonnable, quoi, mais...
Oui, oui, oui. Oui, non, non, mais je... Je pense pas que ce soit une mauvaise idée, mais bon, ça va peut-être décourager des plus petites boîtes qui auraient bien aimé s'étendre en France, voilà.
Mmh. Ouais, bon, disons que, en gros, pour les deux dernières news, je crois qu'on peut dire qu'on sent que c'est la campagne, quoi.
On sent que c'est la campagne.
Ouais, ouais, c'est ça, c'est un peu la campagne. Mais c'est, enfin, c'est une idée à la con, quoi.
La campagne présidentielle, hein, pas la campagne genre.
Non, mais parce que, enfin, nous, on va faire payer les boîtes du net, mais alors après, je sais pas, l'Espagne va faire pareil, l'Italie va faire pareil. Enfin, après, les mecs, ils seront ruinés, quoi. Enfin, voilà. S'ils s'appellent pas Google, ils vont être vite sucés par tous les pays.
Et je sais pas, pourtant, Dieu sait que je suis pas de gauche, hein, mais l'idée de se dire, c'est presque une comment dire, c'est presque une anomalie du système. C'est-à-dire que aujourd'hui, si c'est une société qui est basée, je sais pas, aux États-Unis et qui fait énormément de pubs en France, tu vois, sur toute la France fait va sur le site super comment on va l'appeler notre site?
Google, par exemple.
Google, ils ont des bureaux en France, ils sont énormes, donc. Tu vois, je sais pas, par exemple, NoWatch se domicilie aux États-Unis. La France entière vient sur NoWatch tous les jours. Par exemple. La France entière vient sur NoWatch tous les jours et on se fait 40 milliards de brousouf par jour. Mais on n'a qu'un public francophone, tu vois.
Ouais.
Et bon, en même temps, on paierait des taxes aux États-Unis, donc on aurait quand même payé nos taxes. Mais bon, je pourrais comprendre que les...
Non, mais je comprends aussi, mais...
Si on fait, par exemple, une société qui fait de la news, qui fait de la concurrence à TF1, et que TF1 finit par se casser la gueule, bon, je sais, on rêve, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que si on fait la concurrence à une société française qui emploie des Français en France et qui paye ses taxes en France, et que nous, on a l'avantage de pas être là, donc qu'à pas payer les taxes et les retraites et le chômage des gens qui travaillent en France, je comprends que ça soit un petit peu frustrant, tu vois.
Ouais, je comprends aussi, mais après, il y a 200 cloches. Soit c'est frustrant, effectivement, on fait payer les boîtes, soit, comme tu dis, TF1, ils ont pas le bon business model et ils devraient faire pareil. Enfin, voilà. Après, c'est, le marché, quoi. Enfin, voilà.
Ouais, c'est le marché. Bon, je pense qu'on va sauter une ou deux petites zap infos en plus. Un petit truc marrant, il semblerait que les ayants droit veuillent vendre les films en VOD. Dites un prix, tiens. Vous avez vu cette histoire ou pas?
Ouais, j'ai vu.
Ah bon, vous avez vu. Bon, bah,
allez, j'ai un prix au pif, 8 euros.
8 euros.
C'est écrit dans ton Google Docs.
Oui, en plus, ouais, bon. 8 euros pour un film vendu en VOD. Non, mais enfin, il faut arrêter de fumer la moquette, là, les enfants.
Tu le vois une seule fois et tu payes 8 euros?
Ah bah, c'est de la vidéo à la demande, hein. 8 euros. Alors, à la limite, y avait des projets intéressants aux États-Unis, des trucs du genre payer 30 euros pour un film qui était disponible en même temps que la sortie en salle. Donc, tu te réunis à 3, 4, 5, tu te fais ta séance à la maison et tu payes 30 ou même plus 40 euros pour voir le film au moment où il est sorti en salle. Ça pourrait être sympa. Mais, tu sais,
moi, je vois plus le truc où tu vas voir le film en salle et tu sors et t'as ton film sur clé USB et t'as payé ta place 40 euros.
Oui, oui, tu peux. Ouais, oh, voilà. Mais non, mais je sais pas. Quand, le fait de le payer, parce que si tu vas au ciné avec la voiture, l'essence, le parking, le pop-corn, machin, tu vas bien payer ton truc 30€ aujourd'hui à Paris. Hein. Donc,
oui, oui.
30€ pour te faire une séance, en plus t'appelles des potes, machin. Moi, je pense que
sur ton petit écran.
Ouais, bah attends, tout le monde n'a pas des petits écrans. Il y a des gens.
Oui,
qui...
oui, enfin bon, ça
vaut. Ouais, pas bon, t'es pas séduit. Moi, je suis sûr qu'il y a des gens qui.
Non, non, mais en plus, de toute façon, 8€, c'est hors de prix. Pour revenir au sujet.
Oui.
C'est n'importe quoi. Enfin, c'est même crétin de faire ça parce que les mecs vont. Enfin, pour moi, c'est juste un gros spot pour dire les pirater, c'est moins cher.
Oui, ouais, effectivement, c'est le genre de. C'est un excellent moyen de donner des clients aux pirates.
De pousser, ouais, c'est ça.
Effectivement. Bon, bah écoutez, on va, avant de conclure l'émission, faire un tout petit détour par le Reddit du Rendez-vous Tech. Le Reddit, c'est reddit.com/r/rdvtech. Le lien est sur les articles de l'émission sur NoWatch, bien sûr. En fait, c'est la communauté des redditeurs du Rendez-vous Tech qui vont proposer des histoires, enfin des sujets à couvrir dans l'émission. Il y en a quelques-uns parmi eux.
Non,
non, pas que des photos, non, non, c'est des sujets vraiment qu'on aurait pu rater. Il y a des trucs assez intéressants, donc même si vous voulez faire votre review des sujets à pas rater dans l'actu tech en ce moment, vous pouvez aller voir par là-bas. Il y a des trucs pas mal qu'on n'a pas, auxquels on pense pas forcément. Il y a une histoire par exemple que j'avais ratée. Visiblement, le Kindle Fire, donc la tablette d'Amazon, pas le e-reader mais la vraie tablette, pourrait sortir en France d'ici une ou deux semaines, enfin on va dire deux semaines. C'est Learning Eagle qui nous a proposé ce sujet. Je sais pas d'où ils tirent leurs informations, les gens des numériques, mais c'est une rumeur selon laquelle ils pourraient sortir. C'est très intéressant parce que moi ça me fait me poser la question du contenu. Du coup, est-ce que Amazon va amener les séries télé, les films, tout ça en Europe aussi? Ça pourrait être pas mal. Il y a notre camarade Florent qui fait la publication des émissions, toujours très breton le jeune homme, qui nous dit que la Bretagne veut son extension internet en .bzh. Moi je dis bien joué la Bretagne.
Ça fait longtemps qu'ils en parlent. Ça.
C'est vrai ? Ah je savais pas. Ouais. J'étais pas au courant.
C'est pas encore sorti ça. C'est pas prêt.
C'est pas encore fait. Mais bon, c'est intéressant. Ça fait gagner. Ah mais ils ont envoyé la demande à l'ICANN. Hein. Donc peut-être.
Ils ont déjà sorti récemment un logo. Ils ont fait un logo La Bretagne. Mmh. Et c'est, je crois que le logo c'est un peu bon, un logo noir, etc. Mais dedans, ils parlaient justement du point BZH ou de l'extension web BZH. Donc ils parlaient déjà de cette identité Bretagne. Enfin, vraiment.
Ouais. Non, mais c'est bien quand la Bretagne sera en ligne honnête. Je pense que ça marchera.
Bon, en tout cas, il y a plein d'autres trucs sur Reddit. Si vous voulez faire comme Sarnok, JP Ancos, Learning Eagle ou bien d'autres encore, ou N Février, Tinus, bien sûr, comme d'hab, vous pouvez aller là-bas, proposer des sujets ou même voter up ou down pour leur donner l'importance que vous estimez qu'ils méritent. C'est sur le Reddit et le lien est sur l'article du Rendez-vous Tech.
Et dans ces toutes petites news-là, je voulais juste en rajouter une, qu'il y a, il y a Instagram qui a ouvert aujourd'hui Instagram/Android. On peut s'inscrire sur le site pour recevoir la version d'Instagram sur son Android, pour être au courant en tout cas.
Oui, être au courant. Là, je crois que tu as failli donner une attaque à une partie des auditeurs. C'est pas encore sorti. Hein.
Voilà, donc c'est incessamment sous.
Ouais, voilà. Ouais, effectivement.
Je me suis inscrit hier quand on mangeait de la pizza. Pour info.
D'accord. Bon, bah écoute, je crois que ça veut dire que ça se rapproche et il y a une partie de nos auditeurs qui sera tout excitée parce que depuis le temps qu'on leur en parle de cet Instagram, nous, enfin ceux qui sont sur iOS en parlent aux Androideurs depuis un moment.
Les Androiders vont débarquer, que ceux qui sont sur iOS seront déjà partis. tu vois de qui je parle.
Oui, je voudrais pas dire, mais il y en a certains qui disent régulièrement dans certaines émissions de No Watch qu'ils n'ont pas vraiment le temps de voir sur Instagram. Mais bon, vous inquiétez pas, je reviens bientôt.
Ça fait des mois qu'on entend Instagram, for the win.
Exactement. Bah, à propos d'upload, on va arriver à la fin de cette émission et donc on va vous donner aussi rendez-vous. On enregistre demain, hein, Corben. Tu crois que tu seras en forme pour enregistrer upload demain?
Ouais, pareil que ce soir.
Ouais, d'accord. Donc, comme personne n'est en forme, ça va être une émission joyeuse. Avant ça, on va quand même vous demander à tous les deux où les gens peuvent vous retrouver sur l'internet du Cybernaute. Bon, Corben, je pense qu'on sait un petit peu, mais vas-y quand même.
Bah, sur corben.info, sur twitter.com/corben, sur omicjobs.com si vous cherchez du boulot dans le web, et puis voilà.
Très bien. Bah, écoute, c'est déjà pas mal. Et Geoffrey, toi, alors, qui est une sorte de graphisme ergonomiste émérite.
Exactement. Tout ça en même temps. Et ben, vous pouvez me retrouver sur graphisme.fr, donc graphisme sans E. Et j'affiche.
Oui, mais attends, parce que graphisme, les gens vont taper G-R-A-F-I-S-M.
Ah bah non, G-R-A-P-H-I-S-M.
Ah bah voilà.
Exactement.
Comme la pharmacie.
C'est ça. Sinon, vous allez sur le blog de Corben, à droite, il y a un lien vers mon blog. Ouais. Voilà, et puis sinon, bah, twitter.com/GeoffreyDorn, simplement.
/GeoffreyDorn.
Voilà, c'est sinon ça. Vous tapez Dorn dans Google, ça marche aussi.
Dorn dans Google. Alors attends, je vais essayer en direct. Dorn dans Google.
Geoffrey Dorn. Oh,
bah. Ah ouais, graphisme.fr direct. Pas mal.
Devant Corben. Ouais.
Jérôme Chauin a partagé ce résultat.
Ça, c'est cool.
Eh ben, c'est fort. Ouais. Super. Bah écoutez, merci à vous deux. Merci d'avoir été là pour cette émission. Merci aussi à la chatroom d'avoir été présente. Vous avez été merveilleux, comme toujours. Les liens de l'émission, s'il y en a, seront bien sûr sur nowatch.net/RDV. Vous y retrouverez aussi les liens vers mes réseaux sociaux et mon blog et tout ça. Et vous pouvez aussi, pendant que vous êtes sur nowatch.net, aller jeter un coup d'œil aux autres émissions du groupe qui pourront peut-être vous plaire. Je pense par exemple à Will & Co, avec qui je partage le lundi soir dans le live sur NoWatch, qui fait toujours des émissions délirantes et hilarantes. Vous connaissez peut-être pas, mais c'est le moment de découvrir. Il y en a plein d'autres. Hein. Allez jeter un coup d'œil, il y aura forcément des choses qui vous plairont. Et nous, on vous donne rendez-vous pour un autre rendez-vous tech dans 2 semaines exactement. Normalement, on aura l'équipe historique du rendez-vous tech qui sera présente, j'espère. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on aura une émission de qualité à vous proposer encore une fois. En tout cas, on essaye. Merci à tous et à dans 2 semaines. Ciao, ciao.
Ciao. Salut tout le monde.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.